Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le procès de l'attentat de Nice s'est ouvert à Paris 6 ans après le drame du 14 juillet 2016. Le procès des 8 accusés se tient dans l'enceinte du palais de justice de Paris. La situation en Tunisie, marquée par une pénurie de certains biens de première nécessité et une hausse des prix à la consommation, le président d'État catholique Khalil Zaouya déplore une situation économique et sociale particulièrement difficile. Il sera l'un de nos invités. Un Palestinien a été tué par un tir israélien près de Jénine, une annonce du ministère palestinien de la Santé. La députée NUP, Ersilia Soudet, appelle la France à se préoccuper du sort de l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri. Sa détention vient d'être prolongée de 3 mois par les autorités israéliennes. Nous écouterons Ersilia Soudet. Les fonctionnaires du Parlement irakien ont repris le travail, une reprise plus d'un mois après que des partisans de Moqtada Sadr ont envahi le siège du pouvoir législatif à Bagdad. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Philippe Juravert, responsable des luttes nationales au sein de la France Insoumise. Il évoquera notamment la réduction du nombre de RERC en région parisienne. Extrait dans votre édition. Le procès de l'attentat de Nice s'est ouvert ce lundi après-midi devant la cour d'assises spéciale de Paris. 6 ans après le drame du 14 juillet 2016, le procès des 8 accusés se tient dans l'enceinte du palais de justice. Les audiences sont retransmises au palais des congrès de Nice. 86 personnes ont été tuées, plusieurs centaines blessées suite à cette attaque, une attaque sur la promenade des Anglais quand un camion a foncé sur la foule. La Tunisie est confrontée à une pénurie de certains biens de première nécessité, le pays qui lui aussi est frappé par une hausse des prix à la consommation. Sur cette situation, entretien avec le président d'État catholique, Khalil Zaouya.
C'est une rentrée très difficile, comme on n'en a jamais vécu depuis 30 ou 40 ans, qui est faite de deux phénomènes. D'abord, une pénurie de produits, même des produits de base tels que le sucre, qui a eu des conséquences même sur la production des usines, par exemple, de boissons gazeuses ou des pâtisseries, et ainsi de suite. Donc il y a eu même certaines unités qui ont été mises en chômage technique. Puis deuxièmement, une augmentation du coût de tout ce qui est relatif aux élèves et aux lycéens, cahiers, livres, avec une augmentation du coût qui est très importante, qui dépasse les 20% en moyenne. Et deuxième phénomène, c'est cette situation de flou financier qu'on est en train de vivre avec un État qui n'arrive pas à payer même le carburant et même le gasoil. On a eu la semaine dernière une pénurie en essence. Et il y avait vraiment des files d'attente énormes dans les stations-service pour pouvoir faire le plein. Et ça a été très difficile. Donc c'est une rentrée sociale très dure qui a deux titres, une pénurie des produits de base et une inflation qui est actuellement officiellement autour de 9%, mais je pense qu'on est à une inflation à deux chiffres.
Et face à cette pénurie des produits de base, des mesures de rationnement ont-elles été mises en place?
Pas d'une manière déclarée et organisée. C'est surtout les détaillants qui, par exemple, on a eu une pénurie en eau minérale. Maintenant, si on va acheter en eau minérale, on ne donne qu'un pack, on ne peut pas acheter deux packs. On a une pénurie en café. Ceux qui vendent au détail le café ne délivrent que 200 grammes par personne. Mais c'est pas l'État qui organise ça, c'est en fait les détaillants. Le sucre aussi, maintenant, il y a beaucoup de pâtisseries qui se sont mises à baisser le sucre dans les pâtisseries qu'ils font. Donc, mais ce n'est pas quelque chose qui est organisé, qui est prévu par l'État. Et c'est ça qui aggrave cette situation qui devient parfois angoissante pour certaines catégories.
Cette situation, cette inflation importante, ces pénuries également, est-ce lié essentiellement à la guerre menée par la Russie en Ukraine?
Non, c'est surtout la solvabilité de l'État tunisien. Il y a plusieurs fournisseurs qui sont arrivés, qui sont restés en rade devant le port de Rhodes et qui finalement n'ont pas débarqué leurs produits parce qu'ils n'ont pas été payés.
Vous nous dites que la guerre en Ukraine a accentué les difficultés du pays, mais que ces difficultés étaient déjà présentes avant.
Tout à fait. On a des difficultés pour les médicaments maintenant, parce que les produits de base pour fabriquer les génériques sont de moins en moins importés. Donc il y a quelques 200, je crois, médicaments qui sont actuellement en pénurie en Tunisie. Il y a eu même pendant une courte période une pénurie de l'insuline. C'est quand même un médicament vital. puissent se rattraper. Donc c'est tout ça est dû aux difficultés financières et en devise de l'État tunisien.
Et face à cette inflation galopante, des aides sont-elles mises en place par l'État ?
Pas de manière significative. On vient d'avoir même une augmentation. Le prix de l'essence est fixé par l'État. Donc récemment, il y a 15 jours, on a eu une augmentation du coût de l'essence. Donc ça a ses répercussions surtout. Hein. Le café, maintenant, à la consommation, lorsqu'on va prendre un café quelque part, le prix a presque doublé. Il n'y a pas particulièrement une distribution d'aide aux plus démunis. Non, non. On est dans la même situation.
Des mouvements sociaux sont-ils prévus ces jours prochains en Tunisie ?
Il y a eu pendant l'été des mouvements sociaux parce qu'il y avait une pénurie d'eau, parce qu'il y avait parfois des coupures de courant dans certaines régions. Le GTT, le syndicat, est en négociation actuellement depuis une semaine avec le gouvernement, mais il y a une grève générale qui est programmée, qui est décidée, mais bon, dont la date n'a pas été encore fixée. Donc ils réclament des augmentations de salaire pour les fonctionnaires et s'il n'y a pas une bonne réponse ou une réponse adéquate du gouvernement, ça va aboutir à une grève générale encore une fois. On en a eu une au mois de juin, maintenant il va y avoir une deuxième et ça a un coût. Chez nous, dans nos pays, c'est parfois un petit événement qui met le feu aux poudres. Et donc ça devient ingérable. Pour le moment, c'est la fin de l'été, il fait encore très chaud. La rentrée n'est pas tout à fait effective, parce que la rentrée, c'est à partir du 15 septembre, ce n'est pas la semaine prochaine. Donc, les gens ne ressentent pas l'augmentation du prix des cahiers, des stylos, pas encore. Bien sûr, il y a des mécanismes anciens, tels que tout ce qui est livres scolaires ou cahiers, qui sont compensés par l'État. Il y a eu une pénurie pour ces produits-là déjà. Depuis une semaine, les détaillants dans les régions parlent de manque de ces produits qui sont de produits de consommation courante pour les lycéens et les élèves.
Khalil Zaouia, vous présidez le mouvement État catholique qui fait partie d'une coalition de gauche démocrate en Tunisie. Que préconisez-vous face à cette situation ?
D'abord et en premier lieu, un discours de vérité sur la situation des finances du pays. Parce qu'actuellement, on est toujours, et surtout au niveau du sommet de l'État, le président estime toujours que l'augmentation du coût de la vie est due à des fournisseurs ou bien de la contrebande, alors que ce n'est pas vrai. C'est dû à un phénomène économique mondial qui a des répercussions en Tunisie et dont il faut avoir un programme clair et net et dire que si on va faire un rationnement, on le dit. Et qu'on dit s'il va y avoir une augmentation du coût des produits à la consommation, on le dit, et on essaye de gérer ça dans la transparence. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours des accusations, des grosses fortunes, ce qui, à mon sens, n'est pas vrai. La réalité, c'est qu'il y a une inflation de par le monde. Et il faut reconnaître que la Tunisie, du fait de ses difficultés financières, aggrave cette inflation. D'abord, le discours de vérité. Deuxièmement, un programme de sortie de crise qui soit rationnel et qui soit consensuel, avec un partage des difficultés équitable entre les classes les plus favorisées et les classes les moins favorisées. Certainement qu'on va passer par une période où il va y avoir peut-être un rationnement, peut-être des difficultés pour les plus démunis, mais il faut qu'il y ait un programme clair de soutien, sinon on risque d'avoir des émeutes même de la faim. C'est par juste une augmentation du prix du pain, comme en 84, ça peut mettre le feu aux poudres.
Concernant la coopération entre la France et la Tunisie, comment avez-vous apprécié le récent déplacement de la chef du gouvernement, Najla Bouden, à Paris? Najla Bouden qui, pour la première fois, a rencontré son homologue française, Elisabeth Borne.
C'est positif dans l'absolu, tout à fait, mais on ne connaît pas encore les résultats palpables. Bon, j'espère que Mme Bouden est arrivée à convaincre les hommes d'affaires du MEDEF à venir investir en Tunisie, ce qui semble difficile actuellement. Les IDE en Tunisie sont en baisse constante. Donc on a même des départs de sociétés pétrolières, hein, c'est-à-dire un moment où de par le monde, on cherche les moindres gouttes de pétrole. Chez nous, il y a des départs. Le dernier en date, c'est Shell qui quitte la Tunisie. Voilà, il faut essayer de convaincre. Or, convaincre les investisseurs étrangers, notamment les Français, c'est d'abord, il faut qu'il y ait un climat d'affaires propice. c'est-à-dire moins de bureaucratie, plus de transparence, une justice indépendante, ce qui n'est pas le cas actuellement, et puis un climat politique et social apaisé, ce qui n'est pas le cas actuellement. Les relations avec le syndicat sont très tendues, les relations politiques en général entre les intervenants politiques et même ceux de la société civile avec le gouvernement et l'État en général sont très difficiles. Tout ça n'encourage pas les investisseurs étrangers à venir. J'espère qu'ils vont venir, parce que la Tunisie, quand même, elle a des fondamentaux économiques qui sont bien, et j'espère que quand même les investisseurs, notamment français, vont s'engager à venir en Tunisie. Il y a beaucoup de choses à développer chez nous. Et j'espère que la chef du gouvernement est arrivée à les convaincre.
Le président d'État Katol en Tunisie, l'ancien ministre des Affaires sociales, Khalil Zawiya, s'est arrivé ce lundi dans le nord de la Cisjordanie occupée. Un Palestinien a été tué par un tir israélien près de Jénine, une annonce du ministère palestinien de la Santé. La députée NUP, Ersilia Soudeb, appelle la France à se préoccuper du sort de l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri. Sa détention vient d'être prolongée de 3 mois par les autorités israéliennes. Elle regrette le silence autour de cette affaire en France. Ersilia Soudeb.
Déjà, ça me semble effectivement important qu'une députée en parle, justement parce qu'il y a très peu d'informations qui sont données à son sujet. Probablement d'ailleurs parce que justement, ça touche au conflit israélo-palestinien, qui est un sujet considéré comme un peu tabou. Et si je pense qu'il est important d'en parler, c'est aussi parce que ce n'est pas juste un cas individuel. C'est vraiment le symbole vraiment d'une discrimination que subissent beaucoup de Palestiniens. C'est aussi le symbole du non-respect des droits de l'homme, du bafouement de la démocratie. C'est vraiment tout un symbole en fait qu'il y a derrière cet homme-là en fait.
Et c'est quelqu'un qui est emprisonné sans connaître les motifs de sa détention.
Oui, voilà, exactement. Effectivement, une situation totalement kafkaïenne et absurde, c'est-à-dire qu'on ne cesse de renouveler sa détention sans qu'il y ait la moindre charge contre lui. Normalement, le verdict du tribunal militaire devait avoir lieu demain, et en fait, il a été décidé à nouveau de prolonger sa détention de 3 mois, et ça peut durer comme ça encore pendant des années, quoi.
Vous allez interpeller les autorités françaises à l'Assemblée nationale?
Alors, j'ai déjà interpellé notamment Emmanuel Macron, notamment parce qu'il il a reçu le Premier ministre israélien. Donc, en fait, à cette occasion, je l'ai interpellé pour avec d'autres camarades de la France insoumise pour qu'il parle de la situation de Salah et qu'il s'assure, si procès doit avoir lieu, qu'il y ait un véritable procès et que sinon, il soit libéré et que sa liberté lui soit totalement rendue. Je veux dire, quand je parle de liberté totalement rendue, ça veut dire de se déplacer aussi bien en France qu'en Palestine, puisqu'il est franco-palestinien. Ça va pas expulser, quoi. J'aimerais vraiment que d'autres députés en parlent. D'ailleurs, j'en parle moi-même auprès de mes collègues pour que l'affaire soit davantage connue, parce que je pense que plus on en parlera, plus il y a de chances qu'on obtienne justice. Donc ça me semble effectivement totalement essentiel. Et alors comme je suis personnellement dans la commission des affaires étrangères, effectivement, je vais utiliser toutes les opportunités que j'ai aussi pour en parler en son sein.
La députée NUP Ersilia Soudeb répondait à Loïc Barrière. Un attentat à la bombe a fait 2 morts à Kaboul. Les victimes sont 2 employés de l'ambassade russe. L'attaque s'est produite près de la représentation diplomatique. Les fonctionnaires du Parlement irakien ont repris le travail. Une reprise plus d'un mois après que des partisans de Moqtada Sadr ont envahi le siège du pouvoir législatif dans la capitale irakienne. L'Irak, qui est plongé dans l'impasse politique depuis les élections législatives d'octobre dernier, remportées par Moqtada Sadr. Les responsables politiques n'ont pas réussi à s'accorder sur le nom d'un nouveau Premier ministre. Résultat, le pays n'a ni nouveau gouvernement ni nouveau président depuis le scrutin. La Somalie est au bord de la famine. Une alerte de l'ONU, le chef du bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, lance, dit-il, un ultime avertissement avant une catastrophe qui pourrait intervenir entre octobre et décembre. L'invité de Pluriel à 19h23 est Philippe Juravert, responsable des luttes nationales au sein de la France Insoumise, conseiller régional d'Île-de-France. Il évoquera notamment la réduction du nombre de RERC en région parisienne, 19 trains en moins chaque jour. Extrait de cette émission.
Déjà, je vais vous conter un petit peu ce que m'a répondu la présidente en pleine commission, en pleine séance Île-de-France Mobilité, à savoir
Valérie Pécresse.
Si la SNCF était capable de faire plus avec moins, c'était très bien. Je l'avais à l'époque alerté sur le fait qu'il y avait des calculs d'effectifs qui étaient totalement erronés sur les lignes de RER, C, B, D et d'autres. Mais la C notamment, à savoir ils sont en sous-effectif. Depuis l'opération Covid qu'il y a eu, il y a eu forcément une baisse de l'offre de transport, et les lignes ont fonctionné au ralenti. Depuis, petit à petit, il y a eu une augmentation du trafic aux heures de pointe et un tassement aux heures dites creuses. Et donc, dans ces heures de dites creuses, ça a permis à la direction du RERC de pouvoir économiser au niveau de son budget et la masse salariale, en disant, on va essayer de faire plus ou tout aussi bien avec moins d'effectifs. Il y a moins de conducteurs. Donc, ils n'ont pas anticipé sur les départs à la retraite, ils n'ont pas anticipé sur toutes les défections qu'il y a pu y avoir depuis que, vous savez, depuis que la SNCF donc a changé de statut. Il est évident qu'il y a eu un départ massif des conducteurs, notamment, et donc ils n'ont pas du tout anticipé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur ces lignes-là, il y a une guerre qui se crée parce que ils ont énormément de mal à embaucher et ils ont une pression de la région, notamment de Valérie Pécresse, pour pouvoir continuer à optimiser. Et si jamais ils n'optimisent pas leur régularité, leur trafic, eh bien ils reçoivent des pénalités.
Philippe Juravert, la RATP est aussi à la recherche de 1800 chauffeurs de bus. Que doit faire l'entreprise pour attirer ces nouveaux chauffeurs ?
Comme il y a eu la perte du statut déjà, il n'y a aucune garantie pour les chauffeurs de pouvoir avoir des garanties sur leurs conditions de travail, sur leur déroulement de carrière. Tout cela, on n'en parle plus. Il faut, d'une part, consolider au niveau du statut ce qu'il est possible d'embaucher les conducteurs et, d'autre part, augmenter les salaires. Parce que les salaires qui sont proposés compte tenu du travail qu'on leur demande de fournir, plus personne ne veut être conducteur. Et ils ont de plus en plus de machinistes qui laissent leur emploi au bout d'une semaine, deux semaines d'embauche. Il y a, en termes d'embauche des machinistes, une formation qui était donnée, qui n'est plus donnée aujourd'hui. Parce que comme on se libéralise de plus en plus, la formation est quelque part bâclée. On essaie de récupérer ce qu'on peut comme chauffeur. D'ailleurs, on demande aux machinistes de parrainer des embauches moyennant une prime des chauffeurs de bus. Toute cette culture n'existait pas auparavant. Avant, on était, je veux pas dire fiers, mais on était heureux de rentrer dans cette entreprise. Il y avait vraiment une culture d'entreprise qui n'existe plus maintenant. Maintenant, c'est la privatisation.
Philippe Juravert, responsable des luttes nationales au sein de la France Insoumise, conseiller régional d'Île-de-France, invité de Pluriel à 19h et 23h, émission rediffusée ce mardi matin à 7h, émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition, un grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.